Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle des enjeux importants pour les gens de la MRC. Maria Chapdelaine, aujourd'hui, on va parler du centre Toxic Action de consommation et de tout ce qui entoure cette facette de la vie qu'on connaît peut-être pas tous, puis on va apprendre à connaître. Je pense que c'est bien intéressant et très important pour la communauté. J'ai avec moi Kira Tremblay-Chouinard, qui est coordonnatrice clinique au Centre Toxic Action. Bonjour.
Bonjour.
Et Maxime Côté, qui est travailleur de rue pour le Centre Toxic Action.
Allô.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Ouais. Ben commençons par le départ. C'est quoi le Centre Toxic Action? Tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est quoi? Ça existe depuis quand? Ça sert à quoi?
Depuis 1996, dans le fond, Toxic Action a pour mission de faire de la prévention des dépendances pour toute la MRC Maria Chapdelaine, incluant Saint-Léger, Dolmilo. On offre aussi le service de travail de rue avec des personnes accessibles dans le milieu pour les gens qui en auraient besoin, mais aussi pour l'entourage des gens. Parfois, on est un peu dépassé par notre entourage, les choix qu'ils peuvent faire. Donc, on est aussi présent pour ces personnes-là dans le milieu.
OK. Ça veut dire qu'il y a comme plusieurs facettes là-dedans. Il y a des interventions directes. Maintenant, moi, je t'appelle, je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un dans ma famille qui a une problématique, là, pour nous aider. C'est ça?
Oui, les gens peuvent appeler au bureau pour savoir un peu comment être accompagnés, comment mieux accompagner des fois leurs proches par rapport à la dépendance. Mais notre travail à la base en travail de rue, c'est d'être au contraire dans le milieu avec les gens.
Avec les gens.
Donc, c'est pas tant nous qui recevons les gens au bureau, mais c'est à nous d'être dans le milieu avec eux, développer des liens avec le tenancier de bar, à la patinoire avec les jeunes qui pourraient justement passer leur fin de soirée à l'extérieur, dans les maisons des jeunes. Donc, c'est vraiment plus nous, dans le milieu, que les gens qui peuvent appeler au bureau. Mais on l'offre aussi. Là,
OK. Comme vous êtes des gens de terrain. Ça, c'est important. C'est un choix, en fait, d'aller, j'imagine, plus sur le terrain parce que la problématique, c'est là qu'elle se passe. Ou pas. Ou c'est plus en prévention. Moi, là, je parle, mais je le sais pas. Là.
Mais si je peux me permettre.
Ouais.
C'est dans une relation, justement, d'égal à égal un peu, qu'on est avec les gens, on fait la même chose que les gens, ou presque. Donc, c'est sûr qu'on a certaines limites, mais on est avec les gens, on fait la même chose qu'eux, on apprend à les connaître, on s'intéresse à eux, pour, si un jour ils ont des besoins quelconques, ben ils nous connaissent, puis c'est plus facile de les diriger vers les ressources qu'on a. Ici, oui. Dans la MRC, on a tellement de belles ressources, nous, on sert un peu comme un dispatch vers d'autres ressources. Ah bon, ben quelqu'un fait de l'anxiété, il va pas bien, oui, il va apprendre à me connaître, mais ultimement, si la personne le désire, ben on va peut-être le diriger vers le CSM de l'arrimage.
Okay.
Quelqu'un qui a des comportements violents, par exemple, puis il en est conscient, puis il veut les changer, ben peut-être que je vais le diriger vers le CRH Optimum.
Okay.
Donc, on est dans le milieu pour les gens, pour mieux les diriger, en fait, vers toutes les belles ressources qu'on a ici, là, à The Boone, Stassny et environ.
OK. C'est quoi le constat? Tu sais, on a entendu plein de choses dans les dernières années, qu'il y a plus d'itinérance, qu'il y a au niveau des drogues de synthèse, que c'est une problématique de plus en plus grande. Là, on voit ce qui se passe en Colombie-Britannique, ça a l'air loin, là, mais tu sais, ils battent à chaque année le record d'overdose. C'est quoi le constat de ce qui se passe dans Maria Chapdelaine en ce moment? C'est mieux, c'est pire, tu sais, par rapport, je sais pas combien de temps, là, depuis combien de temps vous suivez ce milieu-là, là, mais comment vous l'analyseriez ou vous le catégoriseriez?
La dépendance, la consommation, ça reste la dépendance, la consommation. Les tendances, ils vont changer. Les substances que les gens vont avoir accès vont changer. Mais ça reste quand même la même problématique. Présentement, justement, le visage au niveau des personnes en situation d'itinérance change dans le sens que avant, la population générale, si elle ne portait pas attention à ces personnes un peu plus vulnérables-là, pouvait ne même pas se rendre compte qu'il y avait l'itinérance à Maria Chapdelaine.
OK. Parce qu'il y en a toujours eu de l'itinérance dans Maria Chapdelaine.
Il y a toujours eu de l'itinérance. C'est pas nouveau. Ça n'a pas apparu dernièrement. Par contre, l'itinérance visible, l'itinérance que justement la population est plus en plus confrontée présentement, ça l'a changé. On se le cachera pas pour mille et une raisons. Mais cette facette-là est plus visible, mais elle a toujours été présente.
Okay.
Au niveau des drogues de synthèse, ça a toujours fait partie du schéma aussi, puis des choses qu'on a rencontrées en travail de rue. Présentement, par exemple, on est capable de plus en parler suite, je ne sais pas, peut-être à la légalisation, suite au discours de peut-être décriminaliser les drogues. Donc, je pense que la population est plus ouverte à la discussion par rapport aux substances.
C'est moins tabou d'en parler?
Je pense que ça devient de plus en plus facile. Du moins, moi, dans mon quotidien, c'est de plus en plus facile d'aborder ces sujets-là qui avant étaient beaucoup plus tabous. Par contre, on se cachera pas que les drogues, pour contourner les lois, ils s'adaptent. Donc, oui. Les molécules à quelles on a accès en ce moment, c'est des molécules beaucoup plus puissantes parce que tu as moins besoin d'une grande quantité pour arriver à un même résultat final. Donc, mais en même temps, c'est pas des chimistes en laboratoire avec des dosages précis.
Oui, oui, c'est ça.
Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, il y a des drogues contaminées avec des substances beaucoup trop puissantes pour ce que les consommateurs sont capables de consommer. Donc, plus d'overdose, plus de décès, malheureusement. Il y a aussi eu l'apparition du naloxone qui nous permet de plus en plus aborder ces sujets-là, parce que je dis qu'on est de plus en plus capable d'en parler, mais tu sais, l'apparition, les pubs, télé, radio...
C'est quoi, pour quelqu'un qui ne sait pas, c'est quoi le naloxone?
Naloxone, dans le fond, c'est un antidote pour une overdose d'opioïdes.
OK.
Donc, la personne qui est en overdose d'opioïdes, on lui administre ce médicament-là, et pendant une courte durée de temps, c'est vraiment en attendant que les secours là, arrivent, on est capable de le maintenir en vie. Parce
c'est un peu comme un épipène pour quelqu'un qui fait une allergie.
Exactement. Non, ben c'est... Ouais. C'est le meilleur, la meilleure exemple qu'on peut donner aux gens, c'est qu'on ne peut pas tuer une personne en administrant du naloxone. C'est vraiment un antidote à quelqu'un qui est déjà décédé, parce qu'on s'entend que quand on est en overdose, on est décédé. Donc, c'est ça. C'est vraiment un antidote là, pour faire en sorte qu'on est capable de sauver des vies.
Puis ça, c'est disponible pour tout le monde, le naloxone?
Oui. Si on a une carte d'assurance maladie, on est capable d'y avoir accès. Nous autres, au bureau, pas besoin d'assurance maladie. Donc, ben, pas que je dis assurance maladie, mais à la pharmacie, tu oui. y vas, ils te le distribuent gratuitement. Mais les gens peuvent venir au bureau. Nous, on en a toujours dans nos sacs. Donc, ça se distribue gratuitement. Il n'y a aucune identification aussi. Là. Des fois, il y a des gens qui pourraient ne pas être à l'aise à venir s'en procurer. Mais nous, on ne donne pas de nom, pas d'adresse, pas rien. Fait que c'est important. Puis... C'est là pour sauver des vies. Tu n'es pas obligé d'être un consommateur ou d'être en contact toujours avec des consommateurs pour avoir une trousse de naloxone. Tu peux aller sortir d'un bar un soir, un 5 à 7, qui se finit un petit peu plus tard, puis être devant quelqu'un en situation d'overdose, puis te dire « Hosto, j'aurais eu accès à ce médicament-là. »
On ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver là, dans la vie qu'on tombe là-dessus. Mais là, moi, je vais me chercher du naloxone, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas comment administrer ça. Ou on te l'explique, j'imagine, quand
oui.
on...
Oui, okay. C'est comme... Je tiens à dire qu'avec tout le matériel qu'on distribue à Toxic Action, parce qu'on a quand même un éventail de choses à distribuer, on donne toujours l'enseignement qui vient avec.
Okay.
Le mieux possible dans nos compétences. C'est sûr qu'on n'est pas des formateurs au niveau du naloxone, mais on est formés, donc on est capable de redonner l'information... Puis c'est important de le faire avec les gens pour qu'ils soient capables de bien réagir.
Tout le monde devrait en avoir. Il n'y a pas de raison.
Selon moi, oui.
Oui, c'est ça.
Selon moi, oui. Ne serait-ce que justement, l'épipène, on aimerait ça quand quelqu'un est allergique de pouvoir intervenir. Ben, je pense que le naloxone, c'est la même affaire. On est conscient que le monde consomme. La consommation, ça fait partie de la réalité.
Est-ce que les gens qui consomment en ont du naloxone, est-ce qu'ils sont assez sensibilisés pour dire ou non?
On en distribue, fait que j'imagine que oui.
Ben oui, mais en fait, là, cette question-là peut être une pente glissante dans un sens que oui, ils en ont, certains en ont, mais à même titre que n'importe quel citoyen, admettons, quelqu'un qui consomme, on lui impose pas d'avoir du naloxone pour pas, admettons, que la personne se sente mal ou jugée par rapport à avoir une étiquette. C'est vraiment si la personne en désire, si elle en veut. On lui explique les risques de peut-être pas en avoir ou les bienfaits d'en posséder. Mais rendu là, ça va être le choix de la personne selon ses envies, ce qu'elle veut faire, en fait. Okay. Ben, il n'y aura jamais contre ça. Ça fait partie là, de la philosophie de base du travail de rue.
Okay.
Puis au départ, je parlais des étiquettes. Puis on parlait un petit peu plus tôt là, de l'itinérance.
Oui.
Oui, là, on parle de l'itinérance plus visible. Mais avant, tu sais, on n'en parlait pas nécessairement, mais il y avait l'itinérance cachée, l'itinérance situationnelle, mettons. Cependant, mettons quelqu'un qui vient de se séparer, exemple, perd son logement. Mais ce qui est important pour moi, puis pour l'équipe du travail de rue, en fait, c'est vraiment qu'il n'y a pas de de visage nécessairement derrière l'itinérance. La personne en situation d'itinérance, c'est justement une personne en situation d'itinérance. C'est pas un itinérant en tant que tel. Okay, c'est oui, quelqu'un qui traverse quelque chose. C'est quelqu'un qui va pas bien selon plusieurs étapes, mais la personne a... Mettons, on est dans le centre d'achat tantôt, on se promène, on n'est pas capable de dire « OK, cette personne-là, ça va être en situation d'itinérance. » Parfois, on le sait pas, puis c'est correct comme ça aussi. Parce que les gens qui sont en situation d'itinérance, souvent, se sentent un peu coupables, se sentent pas bien par rapport à ça, puis ça peut occasionner du stress. Donc, en luttant contre les étiquettes, qui est un peu aussi notre travail, bien, ça aide les personnes à se sentir un peu plus en paix avec eux-mêmes, avec leur situation.
Quand on pense à toxication, on en parle depuis tantôt, on pense aux drogues. Mais on oublie des fois l'alcool, mais l'alcool aussi est une problématique laquelle vous savez où vous devez intervenir. Puis ça, il y en a plus qu'on pense aussi, les problèmes d'alcool. Ou pas, là, je sais pas.
Je pense que l'alcool, en général, est beaucoup banalisé. Là, oui. La consommation d'alcool, l'abus d'alcool.
Elle est même valorisée. T'écoutes des films, des séries, on te donne une bière à la main, puis c'est comme la fête ou...
Exactement. On l'utilise dans plusieurs contextes, puis on en parlait plus tôt, Max et moi. C'est que souvent, au niveau de notre accueil aussi, on accueille les gens avec un verre, on les reçoit à souper avec un verre, on a hâte de terminer la semaine pour prendre un verre. Donc oui, l'alcool est aussi une drogue, c'est pas indépendamment, mais aussi au niveau utilisation des écrans, jeux pathologiques, consommation de substances. Donc on va venir toucher un peu tout, puis c'est aussi quelque
toutes
chose qu'on...
Toutes les dépendances, en fait.
Exactement. Puis c'est quelque chose qu'on... On est associé parce que notre nom s'appelle Toxic Action. Mais les gens qu'on voit, ce n'est pas juste des gens qui ont des problématiques d'alcool ou de consommation. On voit vraiment monsieur, madame, tout le monde de 12 ans et plus. Donc, c'est vraiment ça un peu le message qu'on essaye de faufiler à travers les années. C'est qu'on est identifié Toxic Action, donc dépendance, toxicomanie. Mais au contraire, on est vraiment des agents de proximité. On est là pour créer des liens avec les gens. On est là pour parler de tout et de rien. Puis la journée, justement, comme Max disait tantôt, hop, je file moins, je ne suis pas capable de gérer mes examens cette année. Je viens à patinoire parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Hein, le travailleur de rue est là, je parle de tout puis rien avec. C'est ça notre travail.
Le travail, c'est aussi de créer des... Justement, être dans le milieu, être là pour monsieur, madame, tout le monde, discuter avec eux. Puis si besoin se présente, bien, on est là, ils nous connaissent déjà. Fait que c'est beaucoup plus facile... après ça, de discuter, tandis que les gens, parfois, peuvent se questionner « Ah, mais il faudrait peut-être que j'arrive vers telle ressource, telle ressource, telle ressource. » Puis le premier pas à faire vers une demande d'aide, c'est plus dur, on s'entend. Fait qu'en nous connaissant déjà, bien, ça lui donne la chance de se donner un coup de main, parfois.
Oui, puis là, je pense que ce qu'on fait, ça aussi, ça diminue les préjugés, dans le sens où on te voit me parler au centre d'achat, on pense que j'ai un problème de consommation. Ça arrive-tu, ça? Sentez-vous ce préjugé-là?
De plus en plus, parce que les gens sont présentement la mode, c'est vraiment justement, pas la mode, mais les inquiétudes par rapport aux personnes en situation d'itinérance. On a beaucoup d'appels, on se fait souvent mettre sous les projecteurs par rapport à cette problématique-là qui est, pour la population, vraiment terrible. Mais ça fait en sorte qu'après ça, ils nous identifient beaucoup. Mais comme tu dis, quand je me promène dans le centre d'achat, je vois monsieur et madame tout le monde. Je vois des gens. Puis on parle du service en travail de rue à Toxic Action, mais je fais aussi des ateliers de prévention avec tous les jeunes de secondaire 1 à 5. Donc, je peux voir n'importe qui. Mais c'est pas nécessairement un jeune que j'aurais vu en maison des jeunes. Ça peut être juste dans mes ateliers. Puis là, il sort une petite question, puis il me voit. On a aussi tapage, le travail alternatif payé à la journée. Donc, qui va rejoindre d'autres personnes. Donc, c'est pas nécessairement... C'est vraiment important. Toxic Action, ça a l'air toxico, mais on voit vraiment tout le monde de 12 ans et plus, indépendamment de qu'est-ce qu'ils peuvent vivre. Fait que c'est important, justement, ouvrir un peu ces frontières, puis de pas juste penser, le travailleur de rue, c'est parce que cette personne-là consomme, c'est parce que ce jeune-là, peut-être que c'est vraiment pas ça. On parle
à tout
le monde.
Au contraire, vous servez à créer des liens dans la communauté, justement, pour que le filet social commun soit plus fort.
Exactement.
Ouais. Vous avez votre magnifique sac, parce que là, on parle, tu sais, des fois, parce que ça vous sert à vous identifier.
Ouais.
On vous voit. Fait qu'il y a le côté négatif dont on vient de parler. Ah, les autres, ils sont en train de parler à lui, ils doivent être... Mais au contraire, c'est plus pour un besoin, lever la main. Ah, ils vont être capables de répondre à ma question. C'est un peu ça, pourquoi vous voulez être facilement identifiable.
Exactement. Des fois, ça peut nous servir de... Ça peut être justement un piège là, de porter notre sac dans des milieux où que les gens ne veulent pas être identifiés. Mais on est vraiment dans le respect du rythme. Max, il l'a bien dit tantôt, on n'ira pas vers les gens s'ils sont pas, ils nous interpelleront pas. Donc, pour la confidentialité, pour le respect du rythme. Mais évidemment, s'il y a quelqu'un qui dit « Hey, Kira, viens, j'ai une petite question, j'ai vu que tu avais ton sac », ça nous permet de nous faire identifier. C'est vraiment notre... on vient de le dire, on est dans le milieu avec les gens, on fait des activités avec eux, on va dans des bars, on va... Donc, c'est vraiment aussi pour nous permettre de... Quand je travaille, c'est ça, c'est mon uniforme de travail. Tu peux venir me poser des questions, tu peux venir t'asseoir à côté de moi, puis on est disponible pour le travail. Versus, je suis en fin de semaine, je m'en vais patiner avec ma petite famille. Ça se pourrait que je sois un petit peu moins disponible à répondre à tes questions, puis plus à relever des petits bambins.
Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a des... je ne sais même pas si ma question est pertinente, mais tu sais, quand on est tout le temps dans ce milieu-là, est-ce qu'il n'y a pas des fois des envies? À soir, je passe ma soirée au bar, là, je vais me prendre une petite bière ou pas pantoute, tu sais, Non, mais c'est niaiseux. Mm-hmm. C'est peut-être niaiseux comme question, mais de dire ils sont dans ce milieu-là, les autres, ils connaissent ça, tu sais. Je sais pas.
Mais dans notre travail, c'est sûr que par souci de... pas de cohérence, là, mais pour bien faire valoir notre pratique, je crois qu'on peut pas consommer. On peut pas prendre d'alcool au bar à même titre qu'on peut pas prendre, exemple, de cannabis avec des gens qui consomment du cannabis.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment pour... d'un... être rejoint au travail.
Oui,
puis de deux, simplement être cohérent dans nos propos. Exemple, que quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un veut arrêter de consommer, exemple, on en parle, tout est beau. Bien, c'est sûr que si, admettons, je prendrais de la bière en même temps qu'il me dit qu'il veut arrêter de l'alcool, bien, je deviendrais challengeant, j'augmenterais peut-être ses cravings à ce moment-là.
Tu donc,
je
ne serais vraiment pas aidant.
Je valoriserais la consommation d'alcool.
Ouais.
Mais il n'y a rien de mal à consommer de l'alcool. Ça, c'est important, là, une petite bémol. Tu sais, tout peut se faire dans un côté responsable. Tu sais, chaque drogue peut être dans l'excès.
Le problème, c'est ça.
Puis la problématique, c'est l'excès. C'est pas nécessairement l'excès puis les comportements qui vont en faire. Mais pas nécessairement la prise d'alcool. Ou à la limite, du café, ça peut devenir problématique. Je veux dire, quelqu'un qui prend 2-3 cafés par jour, OK, je veux dire, ça va. Mais quelqu'un qui en prend 7, 8, 9, bien là, ça peut devenir problématique. Puis là, ça devient un enjeu pour la personne.
Mais t'as raison, là. Moi, je suis personne dans la journée tant que j'ai pas pris un café, là. C'est une drogue, là, t'sais, que j'ai besoin, sinon ma journée commence pas, là.
Bien, c'est d'en être conscient aussi. Les substances font partie de notre quotidien, que ce soit les médicaments, que ce soit justement le café ou les autres substances. Puis c'est pour ça que ce que j'aime à Toxicaction puis avec l'approche du travail de rue, c'est la réduction des méfaits. On n'est pas là pour dire aux gens quoi faire, quoi pas faire. Puis ça, je trouve ça primordial dans notre travail. C'est qu'on est là pour accompagner l'humain. On est là pour créer des liens avec l'humain. On n'est pas là pour juger son comportement. On n'est pas là... Quand les gens nous parlent justement d'arrêt de consommation, on est à l'écoute, on essaie d'orienter vers les meilleures ressources. Mais si la personne ne veut pas arrêter, si elle veut juste se confier de sa journée malgré qu'elle consomme, on va être aussi là. Donc, on n'est pas là pour juger le comportement. On est là pour accompagner la personne dans qu'est-ce qu'elle vit.
Fait que quand on vous parle, on ne se sent pas moralisé, on ne se sent pas... ils ne sont pas là pour me dire quoi faire, ils sont là plus pour m'accompagner.
C'est
et important parce que des fois, dans nos préjugés, c'est ce qu'on peut penser. T'sais, ils vont venir, ah non, ils vont me suivre, puis ils vont m'achaler, je ne sais pas.
Et on est conscient que, admettons, en société, veut pas, il y a une espèce de stigma social par rapport à... Ah, bien, écoute, consommateur, exemple, personne qui prend de l'alcool, donc alcoolique, mais nous, c'est vraiment... Bien, t'es une personne, puis on respecte, on apprécie la personne que t'es, puis on passe un peu par-dessus tes problématiques sociales. Moi, je veux apprendre à te connaître toi. Toi, t'es qui? C'est quoi que t'aimes? Puis si t'as envie de me parler de tes problématiques, à ce moment-là, bien, je vais être là, tu vas me connaître. Tant que tu me respectes, il n'y aura pas de problème. On va se voir si tu veux, puis on va régler tes problèmes.
Si tu veux.
Exactement.
Toi, t'es travailleur de rue, Maxime. T'es travailleur de rue, quand on entend ça, on fait comme, mon Dieu, on a l'impression qu'on est dans un film de mafia, puis que la personne... Non, là, j'exagère, mais tu sais, il y a plein de connotations, mais ça a l'air de quoi une journée type d'un travailleur de rue, tu sais?
Hey, ben, une journée type, là, je te dirais que c'est jamais pareil.
Ouais.
Mais tu sais, ce qui est important, je pense que ce que je peux soulever de cette question-là, c'est que tous les travailleurs de rue ont un téléphone. Mm-hmm. Un téléphone où c'est que les gens peuvent nous rejoindre. Donc, oui, il y a un téléphone au bureau, mais aussi le téléphone du travailleur de rue que les contacts du travailleur de rue peuvent l'appeler, lui écrire. Bien, tu sais, quand j'arrive le matin, ça, c'est sûr, je regarde mes messages d'équipe, je regarde mon téléphone. Puis suite à ça, j'oriente ma journée selon ce que les gens m'ont dit, selon ce que quelqu'un m'a appelé, puis ça peut arriver que j'aille la voir chez elle. Ou, je ne sais pas, quelqu'un m'a appelé parce qu'il y avait des craintes par rapport à un endroit. Bien, je vais peut-être être opportuniste puis me diriger dans cet endroit-là dans la journée. C'est vraiment, ouais, par hasard. C'est vraiment être opportuniste, écouter un peu ce que la ville et les environs il se passe, puis choisir un peu les endroits qu'on fréquente avec ça. Puis aussi, plus qu'on connaît de personnes, bien plus qu'on est capable de reconnaître un peu les besoins de notre ville par rapport à ça.
Ouais.
Après ça, les gens, bien, on est disponible pour eux encore.
Puis là, tu dis ton téléphone, les gens l'ont, mais ils peuvent t'appeler n'importe quand, jour et nuit, 24 heures sur 24. T'es prêt à prendre l'appel?
Évidemment que non.
OK, non, mais
c'est une bonne question. En fait, là, nous, les travailleurs de rue, il y a toujours un travailleur de rue disponible normalement, admettons, entre 8h30, 9h du matin jusqu'à 9, 10h le soir. Mais comme tout bon téléphone, on a une boîte vocale.
Ouais.
Fait que on fait nos retours d'appel là, normalement, donc 24, 48 heures ou moins. Là, tu sais, le but, c'est que justement de rendre les services accessibles.
Oui, c'est ça. Parce que là, toi aussi, il faut que tu aies une pause pour ta santé mentale.
Il faut penser à nous en premier, parce que sinon, si on n'a plus de moteur pour nous, ben on ne pourra plus aider les gens, puis on va boiter un peu, là, puis c'est pas ça qu'on veut.
Puis bien qu'on considère que c'est essentiel comme travail, on n'est pas dans un service d'urgence.
Mmh. Ouais.
Donc, okay. Quand les gens, justement, ils peuvent utiliser notre boîte vocale pour se vider le cœur, ils peuvent nous envoyer des messages, je pense aussi que ça les aide là, de faire ça.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'on va juste répondre au moment où on va être disponible de répondre.
Fait que s'il y a une urgence, eux le savent, là, probablement que vous allez distribuer des...
C'est la fin de notre message, en fait.
Ouais, okay.
C'est ça que je voulais revenir là, après. C'est si jamais il y a une urgence, ben je t'invite à appeler le 8-1.
OK.
Si la personne a une crise psychosociale ou il y a quelque chose qui ne va pas à la maison, ben c'est sûr que moi, je suis pas l'ambulance, je suis pas la police, je n'arriverai pas chez eux à la course.
Ouais.
Je me mettrai pas en danger pour quelqu'un. Fait que c'est vraiment, ben, écoute, il y a le 8-1 si jamais c'est une crise dans l'immédiat. Parce qu'on est, comme Kira le disait, on n'est vraiment pas dans l'urgence. On est là pour les gens qui ont des besoins, mais on ne court pas après les gens nécessairement.
Quand tu approches, vous approchez des gens là, qui sont dans la rue, c'est quoi leur réaction? T'sais, dans le sens, peut-être qu'ils ne connaissent pas le sac à dos, etc. Là, ben, ils vont vous parler, mais quand ils réalisent qui vous êtes, comment est l'accueil? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus rébarbatifs ou il y a des gens qui sont bien contents? Comment ça se passe?
Ça dépend. Moi, c'est pas quelque chose que je mets d'avant. Je me présente pas « Salut, moi, je suis Kira Traveuse. »
Okay.
Je vais apprendre à connaître la personne. Souvent, on fait les mêmes... la même routine, les mêmes milieux qu'eux, ils nous regardent. Donc, on va pas aller s'imposer aux personnes. Okay. C'est vraiment important.
Et si je peux compléter ce que Kira tente de dire, là, c'est nous, on suscite un peu l'intérêt des gens. Tu sais, on est là... Puis on est constant, on est présent et constant dans le milieu. Donc, on
visite. Vous leur parlez, vous les ignorez pas non plus. Tu sais, des fois, je pense à des itinérants où les gens en passent, puis on les ignore complètement comme s'ils n'existaient pas. Vous, c'est pas ça ce que vous faites.
Mais en fait, on suscite leur intérêt en passant plusieurs fois. Mais d'emblée, on va pas nécessairement vers les gens.
OK.
Pour pas, justement, pour la confidentialité, pour pas que les gens se sentent jugés, pour pas que, travailleur de rue me parle, ben, c'est à cause que j'ai des problèmes, c'est à cause qu'ils jugent que j'ai des problèmes. Fait que, on est là, on est présent dans le milieu, on se montre disponible, mais c'est les gens qui choisissent des services ou d'entrer en contact avec le travail de rue. Quoique, des fois, c'est sûr que
y a
une conversation,
portes,
hein? On tente de s'y joindre.
Oui.
On dit pas, mais là, non, on est opportuniste. Mais on va pas vers les gens d'emblée. C'est vraiment les gens, ils nous voient. Ah, ben, crime, à un moment donné, ben, le travailleur de rue, je vais lui poser des questions, voir, ça m'intrigue, c'est quoi qu'il fait là, pourquoi. Puis finalement, la personne avait besoin de services, on l'accompagne vers les bons services ou vers nous.
Fait que c'est eux qui posent des questions, finalement. Ouais. Comment vous pouvez m'aider davantage que vous qui arrivez avec un stand? Regardez ce qu'on peut faire pour vous!
Exactement. Ouais. Puis un peu comme Max, ça fait plusieurs fois qu'il dit, l'opportunisme.
Ouais.
C'est de les créer, ces opportunités-là aussi. Ouais, c'est ouais. d'être dans le milieu avec eux, c'est de s'intéresser à ce qu'ils font. D'utiliser le même code. On disait tantôt, on n'arrive pas en chemise-cravate pour travailler. On veut vraiment être sur le même pied d'égalité qu'eux. On est tous des êtres humains, puis c'est ce qu'on prône. Donc, c'est ça qu'on essaie de mettre d'avant. Mais créer des opportunités, il faut que les gens veulent les saisir, puis on respecte ça. T'sais, le respect, la base, c'est aussi ça. Le respect, ouais. le respect du RIP, le respect de où ce qu'ils veulent aller. S'ils veulent pas nous parler, c'est bien correct.
Parce que la voie vers la guérison, là, je mets ça en guillemets, là, je sais pas si c'est le bon terme, mais il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu mm-hmm. décides que tu veux l'embarquer.
Effectivement.
T'sais. Parce que sinon... on peut pas forcer les gens.
Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est par exemple, je vais dans une soupe populaire.
Ouais.
Ben, moi, je fais la même chose qu'eux, je mange avec eux, je me mets, j'aime pas ça dire ça, mais au même niveau que la personne, tu sais, je veux dire, je fais la même chose. Mais c'est pas vrai qu'à chaque fois, même si peut-être que juste que certaines personnes ont des besoins, ben, c'est pas vrai qu'à chaque fois, je vais aller vers les gens. Ouais. C'est, les gens vont, justement, ils vont regarder, ah, ben, le travailleur de riz là, puis ils vont me poser des questions. Peut-être un jour, je pourrais leur donner un coup de main.
Mais... Parce que tu deviens comme, j'aime pas le terme, là, mais comme un meuble, dans le sens où tu fais partie du décor, si on t'a habitué.
C'est ça, notre job.
Non, mais c'est ça. C'est que si tu allais là juste quand il y a une urgence, le monde ferait c'est qui, eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent. Mais comme ils sont habitués de te voir, ils développent une. Ils vont avoir plus confiance en toi que, mettons, la police qui va rentrer. Là. Je sais pas, là, j'exagère dans mes exemples, peut-être.
Tu peux pas être mieux, plus précis et plus. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Le but, c'est de faire partir de l'environnement. C'est à même titre que tout le monde dans cet environnement-là, pour que la journée où ils se sentent à l'aise, on soit disponible encore pour eux. Et non d'intervenir quand il y a justement des situations de crise, XYZ, ou un appel de la population parce qu'il y a une situation qui les inquiète plus. Nous, on est toujours là, peu importe ce qui se passe. Fait que ça, on vient moins être identifiant, puis on vient moins être confrontant aussi. On n'est pas les experts qui vont venir régler une situation, au contraire. On est là avec eux autres, on partage les mêmes choses qu'eux autres. Puis s'ils en ont envie, ils peuvent venir nous parler. Tu sais, tantôt, tu as parlé de guérison. Quand les gens viennent nous parler, on l'a dit tantôt, on va avec ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, c'est de nous parler de « j'ai adoré mon dîner à la soupe populaire aujourd'hui, je suis contente de repartir avec quelques petites cochonneries ». C'est de ça qu'on parle. Si les jeunes ils nous parlent de skate, de quatre roues, de moto, je parle de skate, de quatre roues et de moto. Je ne vais même pas aller orienter la discussion vers nécessairement la consommation ou les problématiques. Vraiment pas. On est là pour créer des liens avec les gens, on est là pour être accessible, puis on est là pour qu'ils aient envie de passer du temps avec nous autres, pour que la journée où il y a une question, ils se sentent à l'aise de nous la poser.
Ouais.
Donc, c'est vraiment ça la base. Je pense qu'on est... Tu sais, moi, je mets devant... plus d'avant le fait qu'on est des créateurs de liens que des intervenants. Ouais. Parce qu'on est là justement pour créer des liens avec eux, pour qu'ils se sentent à l'aise, pour les orienter. Mais c'est pas vrai qu'on fait ça toujours par l'intervention, au contraire. On est là parce qu'on s'intéresse à l'être humain, parce qu'on partage les choses avec eux bien avant de c'est quoi mes objectifs d'intervenant, c'est vers qui je pourrais référer cette personne-là. On est vraiment pas là. On est vraiment
pas
dans...
de quota à job, il faut que je fasse parler.
Non. Puis si on peut dire, admettons, reformuler tout ce qu'on essaye de véhiculer là, présentement en un mot, ça serait d'être un adulte significatif.
Ouais.
Autant pour la jeunesse que pour la clientèle des gens plus vieux, en fait. Là. C'est vraiment d'être un adulte significatif. Quelqu'un d'important qui connaît un peu les... Ou c'est... Tu sais, je sais pas comment dire, là, je bafouille, mais connaît les endroits où qui connaît... qui est capable d'aider la personne à vivre ses émotions,
juste de l'écouter.
Qui connaît... qui est capable de l'écouter, puis qui s'en connaît un peu en moto, ou exemple, qui s'intéresse à sa moto, que... peut-être personne ça va intéresser à sa passion avant. Ben moi, écoute, tu me parles de ton Nintendo 64 puis de ton jeu, ben je vais te poser plein de questions puis je vais rendre tes intérêts intéressants.
C'est drôle, je fais la même affaire avec mes enfants pour être sûr de garder le contact. Des fois, c'est pas vrai que ça m'intéresse, les Pokémon. mais juste d'en parler, ça crée des liens, en fait.
Et en posant des questions, c'est sûr que peut-être à la limite, un jour, ça va t'intéresser.
Ouais.
en sachant pas ce que la personne fait, ben, c'est sûr, ça ne nous intéresse pas, mais en posant des questions, ben, on alimente un peu notre propre intérêt envers les gens, puis ça devient
parce que
plus
une conversation, fluide, ouais. Tu peux la réutiliser pour un autre. Mm-hmm. Fait qu'aujourd'hui, vous êtes des spécialistes du 4 roues.
Dépendamment des gens qu'on voit, ouais. Dépendamment des gens qu'on voit, on devient spécialiste de certains sujets.
Il y a des gens qui s'inquiètent pour les proches, des fois, tu sais, qui veulent aider, puis qui vont peut-être vous appeler. On en parlait peut-être en début d'émission. À partir de quand c'est légitime de s'inquiéter pour un proche, tu sais? Y a-t-il des comportements ou des choses qu'il faudrait avoir? Tu sais, moi, comme parent, là, j'ai des enfants, j'en ai qui sont dans l'adolescence, il y en a qui sont encore dans l'enfance, mais y a-t-il des éléments déclencheurs, des choses qui seraient importantes de garder en tête pour nos proches, en fait, si on veut les aider à s'aider? Je ne sais pas trop comment les...
Je pense que tu l'as déjà dit, de s'intéresser aux gens autour de nous.
Ouais.
Que ce soit nos enfants, nos conjoints, conjointes, nos amis... de s'intéresser, puis tu sais, quand on remarque qu'il y a des changements de comportement, là, on peut... Il y a des petites lumières là, qui s'allument, tu sais. Je pense à un jeune... Hein. Ouais, je pense à un jeune qui arrêterait tous ses sports ou...
Okay.
Tu sais, il peut avoir plusieurs autres raisons, mais un changement de comportement, ça peut allumer des lumières, mais tu sais, il n'y a pas un comportement qui nous dit, OK, là, c'est ça la limite, okay. T'es en train de... T'es dépendant ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus insinueux que ça.
C'est très contextuel. Chaque personne a son histoire.
Hein. Exactement. Puis, dépendamment de nous aussi, quand on est des proches, mais c'est quel comportement qui va nous déranger? Mais si tu parles au voisin, mais lui, sa limite serait déjà traversée. Tu sais, ça ferait longtemps que j'aurais pas accepté ça. Donc, c'est ça, les discours, ils changent. Mais aussôt qu'il y a une question où c'est d'alimenter les discussions. Tu l'as dit tantôt. Et quand tu fais ça, quand tu me parles de ça, ça m'inquiète. J'ai-tu raison d'aller valider un peu, créer? Comme ça, tu vas venir valider un... Ben, c'est-tu justement la consommation? C'est-tu plus d'anxiété? Au contraire, il s'est fait rejeter de son groupe d'amis, fait qu'il a changé drastiquement le groupe d'amis. Donc, c'est d'aller questionner, puis de pas avoir peur d'adresser la consommation aussi. Je pense que des fois... Ouais, tantôt, on parlait d'alcool. On n'a vraiment pas peur de parler d'alcool.
Non.
C'est un sujet très accessible, comme on a dit tantôt, très valorisé.
Fait que c'est correct là, quand, mettons, moi, j'ai parlé de ça avec mon adolescent pour essayer de créer des liens, pour qu'il m'en parle, en fait. Mais finalement, c'est moi qui en parle parce que je sais pas trop comment le faire parler de ça, tu sais.
Comme tu disais tantôt avec le 4 roues,
ouais.
Je suis pas experte en 4 roues, mais eux le sont, par exemple. Puis ils nous en parlent, puis ils aiment nous en parler. La consommation, c'est pareil.
OK.
Ils sont experts de leur propre consommation. Nous, on est là pour les écouter. Je ne suis pas parce qu'on voit des personnes, des fois, qui consomment plus souvent que d'autres intervenants ou d'autres personnes, qu'on devient expert. Au contraire, la personne, c'est l'expert de sa propre consommation. On est là pour l'écouter puis l'accompagner, mais c'est eux autres les experts dans tout ça.
Puis est-ce qu'il faut, comme parent, là je reviens parce que tu m'as dit que vous donnez beaucoup de formation avec les jeunes, mais tu sais, comme parent, là, faut-tu un peu dédramatiser, tu sais, je sais pas, tu réalises que ton enfant fume du cannabis, là, je sais pas, moi, je pars une crise, je l'enferme dans sa chambre puis je l'attache, non, mais j'exagère, mais tu sais, je pense qu'il faut être compréhensif à ce niveau-là, c'est normal, là, de faire des expériences à cet âge-là, ce qu'on veut éviter, c'est l'abus, en fait.
Effectivement, mais en fait, en tant que parent, justement, s'informer à ce que notre jeune fait, avoir... poser des questions, pas avoir de tabou nécessairement par rapport à sa consommation. Puis, ce qui est un peu tannant, je dirais, en tant que parent, c'est que parfois, on ne pourra pas être la personne qui va donner un coup de main à notre enfant.
Parce qu'on est le parent.
Parce qu'on est parent, parce qu'on l'aime, parce qu'on ne lui veut pas de mal, parce que c'est notre enfant.
Ouais.
Fait qu'à ce moment-là, ben, ça serait de « Ah, écoute, je connais... » Par exemple, tout ça, même les travailleurs de rue.
Ouais.
Les travailleurs de rue, ben écoute, peut-être que... Puis ça, c'est important si le jeune veut en parler et pas le parent. Mais à force de poser des questions, ben, peut-être que la motivation va venir du jeune, justement, de parler de ses problématiques. Fait que oui, c'est normal d'être inquiet en tant que parent, mais on est-tu le parent qui intervient toujours pour nos jeunes? Ben je crois que même fois...
Mais pas ça toujours, passe mieux quand ça vient de quelqu'un d'autre de l'extérieur. Parce que comme parents, on est trop tellement encadrants, tu sais. Nos enfants, on les aime, mais c'est pas nos amis. On a aussi le rôle des éduquer, les encadrer. Mm-hmm. Fait que des fois, on n'est pas toujours les gentils, là.
Puis le but n'est pas de rentrer en débat non plus, tu sais. En tant que parents, on veut pas que nos jeunes aient ces comportements-là, mais ils sont là, fait que là...
Ils nous appartiennent pas, là. C'est des êtres humains, comme on le disait, là.
Exactement. Donc des fois, c'est vrai qu'on... On accompagne les gens qui sont vite dépassés ou qui voudraient pas que ce, ils voudraient que ce comportement-là il cesse. Mais ces enfants-là sont des êtres à part entière, comme tu viens de le dire, sont responsables de leur choix. Donc, on travaille la lâcher prise avec certains parents, on travaille la communication. Mais l'important là-dedans, c'est que moi, je rencontre un autre être humain, le parent.
Oui, c'est ça.
Puis moi, c'est ça qui est le plus important en arrière de ça. C'est que lui, il traverse une crise par les relations avec ses enfants, mais il traverse sûrement d'autres situations qui font en sorte qu'en ce moment, il est plus fragile. Donc, on explore tout ça avec la personne. Tu sais, quand je disais, on voit toutes sortes de personnes, mais tu sais...
Ouais. D'où l'importance aussi de démystifier les enjeux, puis de parler d'alcool aussi, parce que des fois, moi, j'entends des gens être beaucoup, avec beaucoup de récriminations, mettons, envers le cannabis, mais prendre une bouteille de vin par soir, tu fais comme, il me semble que c'est incohérent comme discours.
Mm-hmm.
Mais on dirait qu'on n'a pas la même conception de ces drogues-là qui sont, au bout du compte, des drogues des deux. Là.
Je pense qu'on manque beaucoup d'informations qui font en sorte, puis notre éducation, puis socialement, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas.
Ouais.
Donc, je pense qu'on est beaucoup teinté à travers ça dans nos discussions, soit avec nos jeunes, mais aussi avec nos amis. Il faut un petit peu être moins polarisé, je crois. Je crois qu'on a autant avantage d'être à l'aise de parler d'alcool que de cannabis, que de médicaments.
Puis quand tu vas rencontrer des jeunes dans les écoles, là, tu as des jeunes de tout âge, de tout milieu. C'est quoi le discours global? Je sais pas.
Ouais.
Comment tu approches ça?
Dans ces contextes-là, c'est la prévention universelle qu'on appelle. Donc, selon un programme qui a été révisé, on n'ira pas utiliser, mettons, un atelier où on parle spécifiquement des substances avec des jeunes de 12 ans qui ne sont pas rendus.
Ils sont pas là.
Donc, ça serait vraiment... En fait, c'est pas indiqué de faire ça. Fait qu'on vient parler, par exemple, de limites personnelles, de confiance en soi, de passion. Tous ces sujets-là sont importants aussi. Puis ils vont faire en sorte que c'est de la prévention en dépendance. Tantôt, on parlait, la consommation fait partie de la vie, mais quand on l'enlève, la consommation, on se ramasse avec beaucoup de temps libre.
Oui.
Je pense au février sans alcool, là, les gens, ils peuvent peut-être se rendre compte, « Hey, qu'est-ce qu'on fait un vendredi soir sans alcool? »
Oui.
Et là, si t'as pas développé tes passions, si t'as pas développé un entourage qui, avec qui le partager, on se ramasse avec beaucoup de temps libre. Donc, je me souviens pas du tout ce que je voulais en venir avec ça.
Non, mais c'est pas grave, parce que moi, je vais te relancer, parce que moi, j'ai un ami, Mané, qui a arrêté de consommer du cannabis, mm-hmm. Puis il dit le plus difficile, ça a été d'apprendre à m'emmerder.
Mm-hmm.
Tu sais?
Ouais. Ah, c'était par rapport aux jeunes.
Ouais.
Mais c'est ça, c'est... Puis en plus... Si on avait été exposé à rien quand on était plus jeune, c'est difficile, rendu à l'âge adulte, de commencer la natation, s'inscrire au CrossFit. Là, je parle de sport, mais tu sais aussi commencer un nouvel instrument de musique. Donc, c'est important, justement, d'apprendre à s'emmerder pour pas tomber dans une autre dépendance aussi. Parce que c'est février sans alcool, on consomme plus d'alcool, mais je passe toutes mes soirées devant la télé puis à swiper sur mon téléphone, tu sais. Là, on tombe encore dans la dépendance. C'est juste qu'on a changé notre substance. Fait que c'est important.
D'un autre côté, tu sais, il y a comme dans les écoles que Kira et Caroline là, font un travail de prévention universelle. Mm-hmm. Puis nous, de l'autre côté, ben, on a une unité mobile qui s'appelle le Bunker. C'est une espèce de... C'est un autobus où c'est que les jeunes entrent puis peuvent venir discuter de ce qui va bien, de ce qui va mal, puis de ce qui va pas pire. Tu sais, il y a... En fait, c'est heures de midi dans les écoles. On est un peu disponible dans toutes les municipalités. Là, on va faire des tours dans des endroits stratégiques. Puis il y a un ou deux intervenants, tout dépendamment de l'endroit et de la demande, qui est là pour eux. Puis justement, les loisirs, tout ce que les jeunes aiment faire, nous autres, on renforce tellement ça parce que c'est important que la personne, elle apprenne à se connaître, qu'elle apprenne ce qu'elle aime, ce qu'elle est. Fait que si quelqu'un me parle de ses loisirs, là, c'est sûr que je vais y en parler longtemps, puis je vais faire le tour avec. Puis si quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de loisir, bien, qu'est-ce que t'aimes? Puis nanana. Fait qu'on n'est pas toujours en train d'intervenir. Puis on va le répéter maintes et maintes fois. C'est vraiment, on est là pour apprendre à connaître la personne, pour ensuite lui donner ses propres outils pour connaître un peu qui elle est.
Puis, est-ce qu'il y a d'autres services comme ça qu'on connaît pas, là? Parce que là, tu arrives le Bunker. Moi, je n'ai vraiment entendu parler de ça.
Bunker Max, il l'a identifié, tu sais, aux jeunes, mais tu sais, c'est 12 ans et plus. Donc, On est, oui, dans les polyvalentes sur les heures du dîner. Donc, clairement, on est plus au niveau jeune, mais tu sais, on est aussi dans le centre-ville un petit peu avant l'heure du dîner. On est dans les soirs, dans les municipalités, proche des patinoires. Donc, on essaie de cibler des milieux où ce que les gens peuvent facilement avoir accès à l'autobus. Donc, mais des services, on en a... je serais curieuse d'orienter les gens vers notre page Facebook ou notre site Internet parce qu'on a justement le service de prévention des dépendances avec les ateliers dans les écoles. On a l'autobus Le Banqueur. On a du travail de milieu aîné, vulnérable. Donc, justement, tu sais, quand je dis 12 ans et plus, mais c'est vraiment toute
c'est
la
inclus,
population.
Là. Jusqu'à... Des fois, quand on dit 12 ans et plus, on a l'impression que ça arrête à... dans la fin de l'adolescence, là, tu sais, maintenant.
Non, c'est vraiment aussi pour les adultes. On a des groupes de parents d'ados aussi où ce qu'on va parler de communication. Et ta page, tantôt qu'on a parlé du travail alternatif payé à la journée, qu'est-ce qui me manque?
Bien, en fait, qu'est-ce qui te manque? Il te manque aussi peut-être le service avec... ITSS avec...
Oui, on a des collaborations avec le CIUS, donc il y a une infirmière CIDEP qui se présente dans notre lieu local pour faire du dépistage d'ITSS, de la contraception, parler de la santé sexuelle aussi à travers son travail. Donc, puis on essaye, on n'a pas beaucoup misé, Max, on parle gros d'orienter les gens vers d'autres ressources, mais on essaye aussi... d'être là en collaboration avec les autres ressources. Donc, des fois, on se présente dans les milieux, soit un milieu de vie, quelqu'un qui aurait un centre de jour. Max, il se promène dans l'autobus. Là. Je remets ton exemple avec un collaborateur. Donc, on va se présenter à leur maison d'hébergement. On passe un petit peu de temps avec les gens qui sont là. Quand on fait d'autres activités à l'extérieur, bien, que ce soit avec les polyvalentes, que ce soit avec les maisons des jeunes, bien, on essaie de les inviter ou eux nous invitent à leurs activités. Donc, comme on disait tantôt, le but, c'est d'être implanté dans le milieu, dans les environnements, puis dans les organismes.
C'est ça. Fait que vous tissez des liens pas juste avec les gens, mais avec les organismes. Fait que vous êtes vraiment ce qui relie un peu tout ça, là.
Ouais, on tisse des liens avec la communauté, en fait. C'est vraiment, on est là pour, autant les personnes que les organismes communautaires, puis à la limite, les commerçants qui ont peut-être des craintes par rapport à sujet X, Y, Z, par exemple. L'itinérance, les personnes n'ont jamais vraiment vécu avec ça, ne savent pas vraiment comment réagir.
Ça fait peur.
Mais ça fait peur, c'est sûr. Puis on écoute les gens, on essaie de leur donner des outils. Quand il faut appeler nous, quand il faut appeler les policiers, quand il faut appeler les pompiers, c'est ça. Ouais, c'est vraiment... c'est avec la communauté au complet, puis les groupes aussi dans la communauté. Par exemple, il y a un groupe de personnes, je ne sais pas, à un endroit X, bien, c'est important aussi de considérer ce groupe-là comme une espèce de personne-famille. C'est des gens que, entre eux, il y a des codes, il y a une espèce de communauté dans la communauté. Par exemple, une maison de personnes âgées, bien, c'est dans la communauté, mais il y a différentes règles. Une maison de jeunes, c'est une communauté dans notre communauté.
On n'a pas le même vocabulaire.
Bien, c'est ça, on change un peu notre vocabulaire, puis... On n'est pas hypocrite de faire ça parce qu'à quelque part, on le fait pour les gens. On le fait pour...
On s'adapte.
Pour ça, on s'adapte, tout simplement. C'est, admettons que je parle avec quelqu'un de 14 ans, ben j'utiliserai peut-être pas le même vocabulaire qu'un, exemple, un monsieur qui est avocat, puis que là, présentement, il traverse une période difficile, ben je vais peut-être y aller avec des mots... un petit peu plus brillant qu'une conversation avec quelqu'un, je sais pas, qui est en mode détente à la maison des jeunes en jouant au Nintendo Switch.
Oui, je comprends. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des liens entre les problématiques qu'on voit davantage d'itinérance, de drogue, etc., puis une espèce de résurgescence de problèmes de santé mentale. Est-ce que pour vous, c'est associé ou c'est fou? Ou pas, ou ma question par rapport.
Bien, tout est dans tout. Là. Ouais. C'est sûr qu'en ce moment, je ne sais pas si c'est parce qu'on en parle plus, qu'on le voit plus, mais c'est sûr qu'au niveau, mettons, des personnes en situation d'itinérance, mais on a de l'itinérance visible, donc on est plus axé à la remarquer. Quand il y a quelque chose qui nous confronte une fois, après ça, on la remarque plus. Même affaire avec les substances. Quand il y a des décès un peu plus médiatisés, quand c'est des jeunes qui sont touchés, on dirait que le monde, là, ouf, ils mettent leurs lunettes, là, puis... Ils voient plus ce genre de choses-là. Santé mentale, on en parle de plus en plus aussi. Mais notre travail n'a pas changé pour autant.
Oui, c'est ça.
T'sais, les personnes qu'on va essayer de rejoindre, ça reste les mêmes. Notre travail d'être dans la communauté, ça reste le même. Travailler avec l'humain, ça reste le même. Donc, tout ça ne change pas, peu importe les tendances. Puis ça, c'est vraiment important. Des fois, les gens ils nous appellent un peu avec le système d'alarme enclenché. Mais tu sais, nous, notre travail, on n'en fera pas plus, on n'en fera pas moins. On va être plus vigilants. Max, il l'a dit tantôt, tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui m'appelle puis il me parle d'un certain milieu, mais tu sais, on l'a entendu, on va être un peu plus vigilant à ce milieu-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose à faire demain matin dans ce milieu-là en tant que travailleur de rue, vraiment pas. Au contraire, on va être plus attentif, on va faire peut-être plus d'observations, plus de présence, mais ce ne sera pas nous qui va venir régler les situations.
Si je peux apporter une autre facette à ta question, juste pour être certain, ta question, c'était vraiment l'interdépendance entre la consommation de drogue et la santé mentale.
Ouais.
Ben, à quelque part, c'est sûr que consommer des drogues est un facteur de risque à développer certaines problématiques de santé mentale. Mais est-ce que c'est la seule et unique cause? Ça, c'est sûr que non.
Non,
c'est autour d'une personne, il y a toujours un contexte, que ce soit un contexte personnel, la manière qu'elle interprète ce que les autres pensent, la famille, tout ce qui englobe une personne peut devenir aussi un facteur de risque, comme la consommation de drogue. Ouais.
Puis vice-versa. Des fois, la santé mentale, comment qu'on va réagir à notre santé mentale peut aussi amener des conséquences comme consommer.
Ouais.
Il y a des gens qui vont essayer d'un peu de soulager les souffrances que la santé mentale, une problématique peut apporter par la consommation.
Comme quelqu'un qui souffre parce qu'il s'est fait domper ou jeter dehors. T'sais, maman, c'est la souffrance, non, mais c'est quelque chose de personnel qu'on veut comme oublier puis on pense que c'est une bonne solution.
Oui.
Moi, quand j'étais jeune, puis qu'on était en gang dans la rue, puis qu'on faisait un peu trop de bruit ou de problématiques sociales, on appelait la police. Là, la police, ça faisait peur. La police, pour vous, ça doit être un allié, mais est-ce que ça fait encore peur? Tu sais, les gens, quand tu vois débarquer la police, des fois, je sais pas, là,
je pense que la police a le même rôle au sein de la communauté qu'elle a. Nécessairement.
Mais c'est sûr que la police joue son rôle, c'est-à-dire de
mais les gens avec qui vous parlez, là, t'sais, quand, t'sais, pour eux, la police, c'est des méchants ou c'est l'autorité en tant que telle?
Ça dépend des gens.
Ouais, OK. C'est
chacun a sa propre
interprétation de la loi. On démystifie.
Mais c'est sûr que la police a plus le rôle d'intervenir, d'aller sur des situations plus problématiques. Tandis que nous, encore une fois, notre rôle, c'est vraiment d'être présent.
Ouais.
La société, puis de créer des liens. Puis peut-être que la personne qui s'est faite arrêter une ou deux fois avant, bien, elle va me croiser un soir, puis elle va se poser des questions, puis on va réfléchir ensemble à comment ça pourrait faire en sorte que tu fasses un petit peu moins de grabuge, mais que tu aies autant de fun, par exemple.
Ouais.
Donc, c'est un peu là notre rôle. C'est pas d'intervenir, puis de chicaner la personne par la loi.
Mais c'est pas vraiment, de faire le lien non plus entre les
non,
les
pas vraiment divers. Faire le lien entre les deux. Les deux rôles sociaux qu'on joue, là, c'est vraiment plus d'informer la personne puis de réduire les risques de tout ce qu'elle peut faire dans la rue quand on est adolescent, exemple, puis qu'on aime ça faire du bruit puis faire tétard.
Ouais. Puis dans la MRC, est-ce que le pouvoir politique, là, les mairies, les différents hôtels de ville, etc., est-ce qu'ils sont... est-ce qu'ils vous aident ou comment ils pourraient davantage vous aider? Y a-t-il des mesures qu'on pourrait mettre en place collectivement pour vous aider à faciliter, en fait, votre travail?
Bien, présentement, ce qui est agréable, tu sais, tantôt, je disais des fois l'émergence de certaines problématiques où les gens s'inquiètent plus puis nous interpellent. Tu sais, je pense entre autres à là, la situation avec l'itinérance. Les gens nous ont vite interpellés, mais ça a fait en sorte qu'on a beaucoup plus de ponts entre, justement, les élus municipaux, entre la ville. Tu sais, là, je pense à la ville de Delaware, parce que dernièrement, on a travaillé beaucoup en collaboration avec eux. Donc, ils nous questionnent, ils nous interpellent pour des ateliers.
Donc, ils nous font confiance aussi. Oui,
exactement. Ouais. Puis ça, c'est le fun de créer ces ponts-là avec les personnes, parce que c'est quand même eux qui prennent les décisions pour nous, souvent,
oui,
puis pour notre population. Oui, puis nous, on réagit à travers ça, puis on s'adapte, qu'on se aide, mais... Fait que c'est le fun d'avoir eux autres qui aient notre conception de tout ça aussi. Puis c'est le fun qu'ils nous reconnaissent en tant qu'experts puis qu'organismes dans tout ça.
Okay.
Donc, à part créer des ponts, venir s'intéresser à qu'est-ce qu'on fait, venir nous questionner, tu sais, des fois, venir voir... tu sais, des fois, on prend des décisions en pensant que c'est la bonne décision, mais tu sais, les gens qui vivent les décisions que vous prenez, c'est quoi leur pouls? Mais c'est le fun de... qu'ils prennent le temps de venir nous interpeller pour ça. Puis c'est de plus en plus agréable. Mm. En tout cas, les dernières années là, nous ont montré que justement, à l'aide de la MRC, le fait de savoir faire connaître quand que notre financement est plus difficile, c'est important. Ouais. Mais aussi que nous, on est capable d'apporter aussi aux municipalités par nos présences, par justement nos expertises. Mm-hmm. Donc ça, c'est de plus en plus reconnu et apprécié de leur connaissance.
Puis monsieur puis madame tout le monde, là, comme citoyens, là, comment ils peuvent changer les choses? Ou aider, non, mais aider ce que ça se passe mieux ou différemment, je sais pas. Parce qu'on a tous des préjugés, là. Mm-hmm. Mais des fois, c'est difficile de passer par-dessus. Comment on je sais pas, avez-vous des trucs ou comment, est-ce que des recommandations?
Bien, en fait, là, c'est sûr que je dirais pas de recommandations, mais peut-être juste s'informer sur c'est quoi, tu sais. Puis tantôt, on en parlait, l'éducation, puis c'est normal parce que avant, on n'était pas nécessairement conscientisé à c'est quoi, exemple, la consommation de cannabis, c'est quoi l'itinérance. Mais en s'informant puis en ayant les informations, c'est sûr, ça fait moins peur.
Mm-hmm. Puis ça véhicule les vraies informations. Puis ça véhicule les vraies préjugés, informations. Là.
Puis quand on a peur, bien, veut pas, on n'agit pas de la manière la plus rationnelle possible. Ouais. On agit dans la peur, dans la méfiance. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que ça alimente certains préjugés qu'on peut avoir. Mais en apprenant puis en sachant l'information, bien, ça peut juste les diminuer puis faire en sorte que tout le monde aille mieux au final. Mm-hmm.
On veut vous rejoindre. Là. Moi, je sais pas, j'ai des questions ou je décide que je deviens itinérant. Là. Je fais des blagues avec ça, c'est pas drôle, mais je sais pas. Je veux vous rejoindre. C'est quoi qui est plus simple? T'sais, je vais apprendre sur vos services, sur ce que vous faites. Vous avez sûrement un numéro de téléphone, page web ou des endroits où vous êtes régulièrement sur le territoire, je sais pas.
Notre sac à dos, quand on est sur le territoire,
ouais.
L'autobus, c'est un minibus vert identifié Le Bunker. Il passe quand même pas beaucoup inaperçu si on se fie aux commentaires.
C'est toi qui le conduis?
Bien, en fait, on est 6 autres.
OK.
On est 6 avec moi.
OK.
Fait qu'on est 6 travailleurs de rue qui couvrent toute la MRC. Donc, oui, je conduis, mais il n'y a pas juste moi. OK.
Donc, l'autobus, c'est une manière de nous rejoindre. Max a parlé du numéro de téléphone. Ils sont affichés sur notre site Internet, mais aussi sur notre page Facebook. Et sinon, le numéro de l'organisme, 418-276-2090. Notre adjointe administrative va se faire un plaisir de prendre le message puis de redistribuer à la personne la plus désignée pour... faire le retour.
Puis, hey, oui?
Juste avant de terminer, je crois.
Vas-y, vas-y.
Il n'y a pas de mauvaise raison, il n'y a pas de mauvaise question. Si vous avez des inquiétudes par rapport à un proche ou même envers vous, puis que vous avez besoin juste d'être répondu par rapport à ça, d'être écouté, bien, tous les numéros qu'on vient de dire ou tous les sacs à dos qu'on vient de parler, bien, c'est des belles portes d'entrée vers se donner un coup de main puis se sentir un petit peu léger avec ce qu'on vit.
Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Regardez, vous avez très bien répondu à toutes mes mauvaises questions aujourd'hui. Hey, merci pour ce que vous faites. C'est un travail qui est super important puis qui change la vie des gens puis de la communauté. Merci beaucoup. Donc, merci Kira Tremblay-Chouinard, coordonnatrice clinique chez Toxicaction, et Maxime Côté, travailleur de rue. Merci d'avoir été là. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. J'espère vous avoir bien informé là-dessus aujourd'hui. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs sur Tox. Bonne semaine.
Enfin, c'est le retour du bol d'or d'improvisation. Ce tournoi d'improvisation qui en est à sa 17e édition est une compétition provinciale d'improvisation qui rejoint plusieurs équipes de joueurs talentueux en provenance d'un peu partout au Québec. Ne manquez pas les matchs de ce grand concours qui a lieu dans la somptueuse salle de spectacle des Jardins Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini. Bon match!
L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité.